France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Quentin Péchard, Louan Deniel, Fanny Richer et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Jean-Guy Lamège. Et comme chaque vendredi, c'est une émission en deux parties, un retour de Russie avec le journaliste Vladimir Vazak, qui est allé à la rencontre des jeunes Russes de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Entre prudence et propagande, ils racontent leur vie et leur pays, comment ils ont changé depuis 2022. C'est un reportage Arte. Et dans la table ronde d'actualité, il sera question de l'Europe face à la guerre au Moyen-Orient, un conflit qui divise entre ceux qui condamnent et ceux qui craignent de fâcher l'allié états-unien. Nous évoquerons aussi les conséquences pour l'Europe de ce conflit avec nos invités. Nicole Niesoto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, spécialiste des questions européennes et de sécurité, et Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF, spécialiste de la géopolitique et de la prospective. Une discussion co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Vladimir Vazak.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter à Arte. Vous revenez de Russie où vous avez tenté de saisir comment la jeune génération, celle qui n'a connu que Vladimir Poutine au pouvoir, perçoit la guerre menée par ses dirigeants en Ukraine. Comment ces jeunes de Moscou et de Saint-Pétersbourg, loin du front et encore épargnés par la mobilisation, vivent la bascule de leur pays, la restriction des libertés et la fin des échanges avec l'Europe. Alors il y a ceux qui font la fête comme si de rien n'était, ceux qui endossent le discours de propagande patriotique et ceux qui pèsent leurs mots avec prudence. Il faut peut-être commencer justement par dire, Vladimir Vazak, qu'il a été difficile de faire parler ces jeunes femmes et ces jeunes hommes. Vous avez essuyé beaucoup de refus. On imagine que vous vous y attendiez.
Je m'y attendais, mais pas à ce point-là, parce que la Russie, c'est un territoire que je connais bien. Depuis une quinzaine d'années, je suis peut-être allé trentaine de fois. J'avais avant un visa d'entrée multiple. Je pouvais y aller souvent. Vraiment, j'appréciais beaucoup ce pays-là. J'avais eu l'occasion d'y aller en 2024 pour les commémorations, 2025, pardon, pour les commémorations de la Grande Guerre patriotique. Et puis là, on m'a redonné le visa. J'y suis retourné et on avait choisi cet angle parce qu'on s'est dit, bon ben voilà, on ne sait plus grand-chose de la Russie. On s'est dit, la jeunesse, on a appelé ce reportage la Gen Z, puisque effectivement c'est la Gen Z, mais c'est en même temps la génération du Z de la guerre en Ukraine. Et puis là, ça a été particulièrement compliqué parce que en fait, on a calculé au bout de deux jours, on se dit, mais c'est pas possible, tout le monde refuse de nous parler. Et on a eu 18 refus d'interview, et même à 19e, on a filmé une jeune femme qui fabriquait des accessoires de mode, et puis le soir même, elle nous dit, non, ne gardez pas ce que vous avez filmé, s'il vous plaît.
Est-ce que ceux qui refusaient, et cette jeune femme par exemple, justifiaient leur refus? Est-ce qu'ils verbalisaient le fait, voilà, j'ai peur, et si oui, j'ai peur de quoi? Ou est-ce que c'était des refus sans explication?
Ils vont pas dire « j'ai peur », mais ils vont dire « étant donné la situation, vous comprenez dans quelle situation on est, vous comprenez que je ne veux pas prendre des risques, et on comprend que c'est la peur qui domine de toute façon, c'est ça ». Il y a beaucoup de non-dits maintenant en Russie, des gens qui finissent pas leur phrase, qui disent « je ne dirai pas plus ». Sous-entendu, vous avez tout compris, pourquoi je ne dis pas plus? Donc il y a toute une rhétorique du silence et de la peur qui s'installe dans ce pays, et c'est assez, ça devient de plus en plus compliqué pour un journaliste, surtout en télévision, parce que en télévision, forcément, les gens sont filmés, on peut pas faire tout un reportage avec que des anonymes dont on cachera le visage, on peut en faire un ou deux si besoin est, mais en même temps, c'est pas ça notre travail, c'est d'essayer de recueillir les opinions des gens, et c'est sans doute la raison pour laquelle le ministère des Affaires étrangères de Russie délivre moins de visas aux journalistes de la presse écrite, parce que finalement, en presse écrite, ils peuvent relayer des propos et puis les anonymiser, ces propos. En télévision, c'est beaucoup plus délicat.
Et à Moscou, en tout cas, on vous a laissé entrer avec votre caméra dans les clubs et les bars où on fait la fête.
Nous, dans le domaine des arts, les gens de la mode, nous vivons dans notre bulle sociale, comme si nous étions coupés du monde, comme s'il ne s'y passait rien. En un mot, on se coupe de tous les processus géopolitiques. Et tous ceux qui réfléchissent un tant soit peu en sont parfaitement conscients. Ils sont informés, mais ils font comme si rien ne se passait autour d'eux, à l'extérieur de leur bulle. Et ceux qui n'ont pas de cerveau, ils ne remarquent pas ce qui se passe dans le monde. Voilà, c'est ça.
Extrait de votre reportage, Vladimir Vazak. En écoutant ce jeune homme, on a la sensation d'une sorte de déni volontaire, ce qui n'a évidemment pas de sens, parce que le déni, normalement, est plus ou moins inconscient. Mais voilà, c'est cette posture où vraiment on assume, on est conscient qu'on se coupe de quelque chose, et on a aussi la sensation que c'est un réflexe de survie pour vivre, vivre au quotidien. Est-ce que cette posture est fréquente ?
Oui, cette posture est fréquente, surtout à Moscou. On a l'impression que la vie continue, qu'il y a toujours cette ville qui brille de mille feux. D'ailleurs, on met des éclairages partout de plus en plus. Il y a une espèce aussi de géopolitique de l'éclairage. C'est assez étonnant pour faire croire que la ville brille toujours. Et puis là, ce qui était particulier, c'est qu'on avait été invité par quelqu'un qu'on avait rencontré la veille, dont on avait gagné la confiance, qui nous a dit « Venez à ma soirée, vous ne serez pas déçu. » Et donc on a été dans cette soirée dans un club un peu branché de Moscou, et là ce jeune homme qu'on interview, on fait ça un peu au débotté comme ça sans le prévenir, et c'est pour ça que ça marche, parce qu'en fait il se lâche, il est dans une ambiance de fête et il dit les choses assez clairement. Ce qui est toujours intéressant en Russie, c'est que quand les gens sont prêts à parler ou se rendent pas compte de ce que ça peut des conséquences qu'il peut y avoir, et bien on a quand même toujours des gens qui sont très bien éduqués, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau de connaissance et d'éducation qui fait que les réponses, quand elles sont là, elles sont assez subtiles. Et là, sa réponse est vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'en 20 secondes, il fait une analyse un peu des non-dits.
Vous rencontrez aussi Alexandre Radaïev, qui dirige un média culturel qui appartient à ce cercle d'artistes et de personnes un peu branchées, comme vous dites. Et alors lui, il vous explique qu'il n'a pas voulu fuir, parce qu'il faut rappeler que beaucoup de jeunes Russes sont partis en 2022, ont quitté le pays. Et il a l'air de percevoir assez négativement ceux qui sont partis. Il parle de lapins en fuite. Pourquoi lui a-t-il décidé de rester ?
Parce que je pense que l'exil, c'est une solution. Ça a été une solution pour énormément de jeunes Russes. On parle toujours de ce chiffre d'un million. Est-ce que c'est... Voilà, ça sera autour de ça. Mais l'exil, c'est quand même aussi un repli sur soi. C'est-à-dire qu'on quitte sa culture, on quitte son identité, qui fait qu'on n'est plus grand-chose quand on est en exil. Et c'est vraiment une situation qui... C'est vraiment un déchirement pour les gens qui sont obligés de partir. Et lui, il s'est dit, si je suis en exil et je ne serai plus rien, je serai peut-être un Russe quelque part à Paris ou à Londres, mais je serai un parmi d'autres et on m'oubliera. Je ne suis pas britannique, je ne suis pas français, je ne le serai jamais, je n'y arriverai jamais. Et donc, ça va être très, très compliqué pour lui. Et puis aussi, l'âge fait que quand on part en exil à 20 ans, c'est plus facile que quand on essaye de partir à 30 ans. Donc voilà, il a décidé de composer avec ça. Oui, on pourrait le critiquer, on pourrait critiquer son inconscience, mais en même temps, tous ces gens-là, ils veulent vivre aussi.
Et lui vous dit que sa liberté d'expression serait menacée en Europe. Il évoque des médias russes qui ne sont pas autorisés en Europe. Il estime que sa liberté d'expression n'est pas menacée en Russie.
Alors ça, pour moi, c'est peut-être une des leçons de ces dernières années. C'est la grande fracture idéologique qui existe aujourd'hui entre des régimes totalitaires, conservateurs, et puis des régimes démocratiques. Et quand il fait allusion à la censure dont il serait l'objet, c'est qu'en fait, dans la discussion avant de l'interviewer, il me parlait du fait qu'en France, on ne pouvait pas parler de ce concept de grand remplacement. Alors évidemment, ça me choque, moi, en tant que journaliste français, démocrate, européen. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Mais on leur fait comprendre, on leur fait qu'aujourd'hui, l'Europe est menacée et que l'Europe est décadente. Ils n'ont pas du tout apprécié la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ils disent, nous, on est sur des valeurs traditionnelles. On est la vraie société avec un homme, une femme. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver aux États-Unis. C'est quelque chose que j'ai déjà vu au Brésil à l'époque de Bolsonaro. C'est assez étonnant de voir que vraiment, la ligne de fracture aujourd'hui dans le monde, pour moi, elle est là.
Alors à Moscou, toujours, vous vous rendez dans un salon du livre qui est organisé sur la Place Rouge. C'est intéressant pour mesurer le niveau de liberté d'expression dont on parlait. Quel type de livre et quel genre d'éditeur est-ce qu'on peut croiser dans un tel événement ?
Alors là, c'est peut-être un petit miracle russe. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, si on a essayé une librairie. On a eu un refus dans une librairie, deux refus. On s'est dit, c'est pas possible, on va pas les mettre en difficulté. Et puis on découvre qu'il y a le salon du livre. On s'est dit, bon ben là, ils vont tous être là, les éditeurs. Et on va essayer de voir s'il y a encore une forme de diversité. Oui, il y a encore des éditeurs qui publient des livres de pas de contestation ouverte, mais d'analyse de la société ou d'analyse de du conflit de façon un peu indirecte. Il y a quand même des espaces, mais quand même le gros, l'espèce de bulldozer nationaliste, patriotique, guerrier, il s'exprime aussi dans un salon du livre. Quand on a un gars des éditions militaires qui nous dit « oui, c'est de la propagande, mais c'est de la bonne propagande », c'est assez surprenant.
Cette maison d'édition, c'est celle de l'Étoile Rouge, qui est liée au ministère de la Défense et qui édite effectivement des livres d'histoire militaire et qui se réjouit d'une demande en hausse.
La demande augmente, tant mieux. Les gens ont commencé à s'intéresser à l'histoire militaire parce que l'actualité l'impose, malheureusement. Les gens se sont tournés vers l'histoire et c'est très bien. Le plus important, c'est cet amour génétique pour la patrie, pour sa défense. Bien entendu, c'est de la propagande, mais une propagande bienveillante et juste. Oui, c'est ça, une propagande juste et bienveillante.
Difficile de ne pas sourire en entendant ces propos. Qu'est-ce que c'est une propagande juste et bienveillante ?
Et c'est-à-dire que c'est une propagande qui met dans la tête des jeunes cette idée de la défense de la patrie, le pays est plus important que l'être humain et que le jeune doit être prêt à se sacrifier pour la patrie. C'est toute cette rhétorique qui se met en place, qu'on voit aussi dans l'excellent documentaire sur l'histoire de ce professeur dans une école de l'Oural qui a suivi Mr. Nobody Against Putin, qui a suivi pendant 2 ans la militarisation des jeunes. C'est assez effrayant à constater, mais c'est ça. Et c'est ce qu'on a filmé aussi avec des gamins qui, à 5-6 ans, savent démonter une Kalachnikov.
Et d'ailleurs, cette maison d'édition édite aussi des cahiers pour enfants à la gloire des soldats engagés sur le front ukrainien. Ce sont de vraies personnes, tiens, à vous préciser l'éditeur. Comment est-ce que ça participe aussi d'une « héroïsation » avec des guillemets de la guerre actuelle sur un format parallèle à celui de la grande guerre patriotique de la Seconde Guerre mondiale?
Oui, on retrouve les mêmes messages, c'est-à-dire avec des messages, par exemple, « la victoire sera à nous, nous avons une certaine légitimité ». Pour attaquer l'Ukraine. Donc on va retrouver la même chose. Et ce parallèle entre la victoire de 1945 et aujourd'hui, il est omniprésent. Donc quelque part, toute la jeunesse russe, on lui met dans la tête que globalement, le pays a été héroïque en 1945. On oublie d'ailleurs toutes les autres républiques soviétiques de l'époque qui se sont battues aussi pour la victoire. Et puis aujourd'hui, ils se disent, bon, bah, c'est la même histoire qui recommence et on oublie tout le reste. Et puis voilà, c'est une espèce de lavage de cerveau qui est assez effrayant. Je tiens à préciser aussi que les cahiers qu'on voit, des cahiers d'école avec l'héroïsation des soldats russes, on l'aura aussi en Ukraine. Parce qu'au mois de janvier, je suis aussi allé en Ukraine pour faire un reportage sur la vie souterraine. Parce que la forme de résistance passe par la vie souterraine en Ukraine. Donc on a aussi cette héroïsation, c'est normal en temps de guerre. Mais là, évidemment, nous, vu d'Europe, on a du mal à concevoir qu'on puisse héroïser des gens qui agressent un pays démocratique.
Le récit, il passe aussi par la géographie et notamment les cartes. Dans ce salon du livre, il y a un stand de l'Institut de la géographie qui propose des cartes qui, évidemment, incluent les territoires ukrainiens annexés. Ce sont désormais les cartes standards.
Oui, elle nous dit, la dame, là aussi, c'est ce petit moment d'interview. Il faut bien se dire que si on commence à faire une demande officielle d'interview à l'Institut de géographie, on n'aura jamais la réponse, ils ne vont jamais nous dire oui. Ou alors s'ils nous disent oui, ça va être pénible, ça ne va pas être drôle, enfin ça va être un peu pénible à faire. Et là on s'est dit, allez, on y va sur le stand et je demande à ma collègue, j'ai dit essaye de faire en sorte qu'elle nous prenne le puzzle, parce qu'en fait c'est un puzzle de la carte de la Russie et qu'elle nous dise, voilà, il y a toutes les... Et on lui demande, est-ce qu'il y a aussi les nouvelles républiques? Et elle nous dit oui, parce que c'est la loi aujourd'hui. Et puis c'est tout, c'est la loi et c'est comme ça. Et elle dit même, si je ne respecte pas la loi, je risque d'aller en prison. C'est quand même assez dingue de penser ça, de constater ça aujourd'hui.
Vous rencontrez aussi, toujours près de Moscou, Vladimir Vazak, un jeune homme qui a 25 ans, qui s'appelle Anton Khailaïf. Et lui, malgré son jeune âge, eh bien, il est déjà un vétéran de la guerre en Ukraine. Quel rôle y a-t-il joué et quel rôle politique joue-t-il aujourd'hui en Russie ?
Alors, c'est quelqu'un qu'on a rencontré. Ça a été paradoxalement aussi difficile de le rencontrer parce que même dans les sphères du pouvoir, ils ont peur maintenant d'accepter que des journalistes étrangers viennent, des journalistes occidentaux. Donc, il a fallu négocier. On a eu le soutien même de quelqu'un du ministère des Affaires étrangères qui a dû téléphoner en disant « Vous êtes priés de les accueillir ». Et donc, on arrive et on nous présente ce jeune homme bien propre sur lui, très très élégant, très voilà, et qui nous dit qu'il a déjà été droniste, opérateur de drone sur le front, qu'il a déjà été à Mariupol, ville occupée par la Russie, et il a ce côté presque un peu lisse, parfait, et il est formaté pour être le représentant de la génération de la guerre, de la génération pro-guerre, de la génération Poutine, avec cette idée que lui va transmettre aux plus jeunes cette héroïsation, cette idée du sacrifice et la légitimité de cette agression contre l'Ukraine.
Et d'ailleurs, on retrouve dans son discours les références historiques dont vous parliez tout à l'heure, puisqu'il vous dit « Nous avons toujours été attaqués et nous nous sommes toujours défendus. Le sacrifice est dans nos gènes ».
Oui, c'est cette idée que en Russie, l'être humain compte moins. C'est ce que l'on constate sur le front. C'est ce que les Ukrainiens vous disent. On ne comprend pas qu'ils arrivent à sacrifier autant d'êtres humains. Mais pour l'instant, le système tient comme ça. C'est-à-dire que le front tient comme ça, avec beaucoup d'êtres humains qui sont sacrifiés. Et pourquoi on laisse faire ça? Parce que, en fait, pour l'instant, l'économie russe permet de payer les soldats, de payer les familles qui perdent des soldats. Voilà, le système tient comme ça pour l'instant.
Ce qu'on entend là, Vladimir Vazak, c'est une chanson très populaire, enfin, c'est populaire, vous allez nous le dire, qui s'appelle « C'était en Russie » et qui est sorti en 2024 de l'artiste qui est aujourd'hui en exil, Monetochka. « C'était en Russie », c'est une chanson qui a des accents assez nostalgiques. C'est une chanson qui a été reprise récemment à Saint-Pétersbourg dans les rues, ce qui a provoqué des manifestations qui n'ont pas beaucoup plu. La chanteuse a été arrêtée, exilée. Qu'est-ce que cette chanson évoque aujourd'hui pour les jeunes Russes ?
Cette chanson, c'est tout le paradoxe de la situation. Monetochka, la chanteuse, est en exil aujourd'hui. Sur Internet, on voit que le clip est assez nostalgique. C'est triste comme histoire. Ça raconte la Russie d'avant, la Russie, le rêve que j'avais qu'on ne pourra pas me voler. Donc il y a effectivement une tonalité assez triste. Et puis, en fait, quand on est en Russie même, quand on pose la question de l'exil de cette chanteuse et de l'exil de Naoko, cette jeune chanteuse qui avait donc repris dans les rues de Saint-Pétersbourg au mois d'octobre cette chanson, qui a été arrêtée pour ça et qu'on a envoyée en exil, en fait c'est tout le système qui fait que globalement les gens qui dérangent, on les laisse sortir, on les fait sortir du pays et comme ça ils sont neutralisés. Et ça se retourne contre ceux qui partent parce que les Russes aujourd'hui disent « mais ce sont des gens qui sont partis, c'est trop facile pour eux, ils ne vont pas se battre pour nous, il y a cette idée de l'engagement, forme de lâcheté qu'on leur reproche ». Donc l'exil n'est pas une solution qui est forcément bien vue par la société russe.
Et toujours à Saint-Pétersbourg, je voulais aussi qu'on évoque les rêves de cette jeune étudiante en sculpture à l'Académie des Beaux-Arts qui rêve de se rendre à Paris, au musée du Louvre, pour admirer la victoire de Samothrace, qu'elle estime être la sculpture parfaite par excellence. Et aujourd'hui, elle doit faire le deuil de ce rêve-là.
Elle fait le deuil, mais elle veut pas voir qu'elle est obligée de faire le deuil. Elle se dit que ça sera toujours possible. Peut-être qu'elle y arrivera, parce qu'il y a toujours moyen. Les Russes sont pas interdits d'entrer dans l'Union européenne. C'est plus compliqué pour eux d'avoir des visas Schengen, mais ça reste possible, même s'il faut prendre un bus pour aller en Estonie et passer la frontière, parce qu'il n'y a plus d'avion qui relie directement Saint-Pétersbourg à l'Union européenne. Mais donc, cette jeune fille, elle est effectivement dans son monde, dans son univers, à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Et pourquoi est-elle là? Parce qu'on s'est dit, s'il y a quelque chose de particulier à Saint-Pétersbourg, c'est cette identité culturelle et européenne très forte. Et on s'est dit, là, peut-être qu'on va arriver à faire parler les gens de façon un peu indirecte. Et c'est tout le travail aujourd'hui en Russie. C'est-à-dire que si vous arrivez frontalement en disant « je voudrais que vous me parliez de la guerre, je voudrais que vous me parliez de la géopolitique », ça ne marchera pas. Et donc, il faut y aller toujours par des voies un peu détournées, avec notamment cette jeune fille, et ça finit avec son rêve d'aller au Louvre.
Merci beaucoup, Vladimir Vazak. Votre reportage « Russie, la génération Z », c'est donc à voir sur Arte. Merci beaucoup d'être venu dans le Retour de terrain.
Merci à vous.